Chapitre 5. Le même soir, à une heure avancée, entrant par hasard au cercle, où depuis longtemps il ne se montrait plus, il aperçut à une table de jeu Don Manuel Ferrez y Capdeville, le ministre du Guatemala. Il s'empressa de le saluer, lui demanda des nouvelles de Donna Marie, de Delphine. « Sont-elles encore à Sienne? Quand viendront-elles ?» Le ministre, qui se souvenait d'avoir gagné quelques milliers de francs au jeune comte pendant la dernière soirée de Skiffanoïa, répondit à cet empressement avec beaucoup de courtoisie. Il avait reconnu en Sperelli un joueur admirable, de haut style, parfait. Elles sont ici toutes les deux depuis quelques jours. Elles sont arrivées lundi. Marie est bien fâchée de n'avoir pas trouvé la marquise d'Ateleta. Je crois qu'une visite de vous lui ferait grand plaisir. Nous demeurons rue Nationale. Voici l'adresse exacte. » Et il donna une de ses cartes à André. Puis il se remit au jeu. André fut appelé par le duc de Beffy, qui se trouvait dans un groupe de gentilshommes. « Pourquoi n'es-tu pas venu ce matin à Centocelle ?» lui demanda le duc. « J'avais un autre rendez-vous, » répondit André sans réfléchir, en manière d'excuse banale. Le duc se mit à ricaner et ses amis firent chorus. « Un rendez-vous rue des Quatre Fontaines ?»« Cela se pourrait. »« Cela se pourrait ?» Ludovic t'a vu entrer au palais Barberini. Et toi, où étais-tu? Demanda André à Barbarisi. Chez ma tante Saviano. Ah! Je ne sais, continua le duc de Beffy, si tu as fait meilleure chasse que nous, mais nous avons eu un laissé-court de 42 minutes et nous avons pris 2 renards. Jeudi, on chassera aux 3 fontaines. Et non pas aux 4 fontaines, tu entends bien? Fit observer Bonimaco avec son habituelle gravité comique. Les amis rirent de la plaisanterie et le rire gagna André lui-même. Cette malignité ne lui déplaisait pas. Bien plus, maintenant que c'était un bruit sans fondement, il était bien aise que ses amis crussent renouer sa relation avec Hélène. Il se détourna pour causer avec Musellaro qui arrivait. Par quelques paroles venues jusqu'à son oreille, il s'aperçut que dans le groupe, on parlait de Lord Enfield. « Je l'ai connu à Londres il y a 6 ou 7 ans, » disait le duc de Beffy. « Il était Lord of the Bedchamber du prince de Galles, ce me semble. » Puis la voix s'abaissa. Le duc devait raconter des choses énormes. L'oreille d'André, parmi les lambeaux de phrases licencieuses, distingua 2 ou 3 fois le titre d'un journal fameux dans l'histoire des scandales de Londres, la Pall Mall Gazette. Il aurait voulu écouter. Une curiosité terrible l'envahissait. Son imagination lui représenta les mains de Lord Enfield, ses mains pâles, si expressives, si significatives, si révélatrices, ses mains inoubliables. Mais Musellaro continuait de parler. Il dit « Sortons, je te raconterai. » Dans l'escalier, ils trouvèrent le comte Albonico qui montait. Le comte portait le deuil de Donna Hippolyte. André s'arrêta pour lui demander des détails sur le douloureux événement. Il avait appris le malheur en novembre à Paris par Guy Montelatici, cousin de Donna Hippolyte. Était-ce vraiment le typhus? Le veuve blonda ses ternes, cueillit au vol cette occasion d'épancher son chagrin. Il promenait maintenant ce chagrin comme il avait promené autrefois la beauté de sa femme. Le bégaiement rendait ses paroles larmoyantes, et on aurait dit que, d'un moment à l'autre, ses yeux blanchâtres allaient se vider comme 2 poches de pu. Musellaro, qui voyait l'élégie du veuve traîner un peu en longueur, pressa André en disant « Fais attention, nous allons être en retard. » André prit congé, renvoyant à une prochaine rencontre la suite de cette commémoration funèbre, et il sortit avec Musellaro. Les paroles du comte Albonico avaient réveillé chez lui l'émotion singulière qui, à Paris, l'avait dominée pendant quelques jours après la nouvelle de cette mort. Une émotion mêlée d'un désir douloureux et ensuite d'une sorte de complaisance. Pendant ces jours-là, l'image de Donna Hippolyte, presque perdue dans l'oubli, lui avait réapparu à travers la période de la maladie et de la convalescence, à travers tant d'autres vicissitudes, à travers l'amour de Marie Ferrez, très lointaine, mais enveloppée de je ne sais quelle idéalité. Il avait obtenu d'elle un consentement, et bien qu'il ne l'eût pas possédé, il lui devait une des plus grandes ivresses humaines, l'ivresse de la victoire sur un rival, d'une victoire bruyante en présence de la femme désirée. Pendant ces jours-là, le désir qu'il n'avait pu satisfaire avait ressuscité, et sous l'empire de l'imagination, l'impossibilité de satisfaire jamais ce désir lui avait donné une inquiétude indicible, des heures de véritable supplice. Plus tard, entre le désir et le regret, un autre sentiment était né, le sentiment poétique de la beauté idéalisée par la mort. Il lui plaisait que son aventure se terminât ainsi pour toujours. Cette femme non possédée, mais pour la conquête de laquelle il avait été sur le point de perdre la vie, cette femme à peine connue se dressait, unique et intacte, à la cime de sa pensée, dans une transfiguration divine. Tibi, Hippolyta, Saint-Père. Musellaro racontait à André comment Julie Mocetto s'était rendue. Elle est donc venue aujourd'hui vers 2 heures, disait-il, et dans son enthousiasme, il donnait quantité de détails sur la rare et secrète beauté de la Pandore inféconde. Tu as raison, une merveilleuse coupe d'ivoire. Quelques jours auparavant, dans la nuit de pleine lune, après le théâtre, lorsque son ami était monté seul au Palais Borghese, André avait éprouvé une piqûre légère. Cette piqûre presque imperceptible recommençait maintenant à se faire sentir. Et elle lui donnait une mauvaise humeur mal définie, mais au fond de laquelle, pêle-mêle avec les souvenirs, s'agitait peut-être la jalousie, l'envie et cette suprême intolérance, égoïste et tyrannique, qui était dans sa nature et qui le poussait parfois à désirer presque la destruction d'une femme qu'il avait élue et possédée pour qu'elle ne pût désormais appartenir à personne. Nul ne devait boire au verre où il avait bu. Le souvenir de son passage devait suffire à combler une vie entière. Ses maîtresses devaient rester éternellement fidèles à son infidélité. Tel était le rêve de son orgueil. D'ailleurs, il trouvait déplaisante la publication, la divulgation d'un secret de beauté. Certes, si le discobole de Miron, ou le doryphore de Polyclète, ou la Vénus de Cnide lui avaient appartenu, son premier soin aurait été d'enfermer le chef-d'œuvre dans un lieu inaccessible et d'en réserver la jouissance pour lui seul, par crainte que la jouissance d'autrui ne diminuât la sienne propre. Mais alors, pourquoi avait-il concouru lui-même à la publication de ce secret? Pourquoi avait-il stimulé lui-même la curiosité de son ami? Pourquoi avait-il lui-même souhaité à cet ami bonne chance? En outre, la facilité avec laquelle cette femme s'était donnée lui inspirait de la colère et du dégoût, l'humiliait aussi un peu. « Où allons-nous ? » demanda Musellaro en s'arrêtant sur la place de Venise. Au fond de ses émotions et de ses pensées diverses, André conservait dans l'âme le trouble suscité par sa rencontre avec Don Manuel et l'image éblouissante de la siennoise. Et précisément, au milieu de ses perturbations passagères, une sorte d'anxiété l'a tiré vers la maison de l'aimé. « Je rentre chez moi, » répondit-il. « Passons par la rue Nationale. Fais-moi la conduite. » À partir de cet instant, il n'écouta plus ce que lui disait Musellaro. La pensée de Marie le domina tout entier. En arrivant devant le théâtre, il eut une seconde d'hésitation. Il ne savait pas s'il devait choisir le trottoir de droite ou celui de gauche. Pour reconnaître la maison, il voulait lire les numéros sur les portes. « Mais qu'as-tu donc ? » lui demanda son ami. « Rien, je t'écoute. » Il regarda un numéro et calcula que la maison devait être à gauche, pas très loin, probablement dans le voisinage de la villa Androbrandini. Les grands pins de la villa apparurent, légers dans le ciel étoilé. La nuit était glaciale mais sereine. La tour des milices dressait sa masse carrée, sombre parmi les étoiles. Les lauriers qui croissent sur la muraille de Servius dormaient à la lueur des lanternes, immobiles. Quelques numéros encore et ils arriveraient à celui indiqué sur la carte de Don Manuel. André tremblait comme si Marie dût venir à sa rencontre. Il passa au ras de la grande porte et ne put s'empêcher de regarder en l'air. « Que regardes-tu donc ?» lui demanda Musellaro. « Rien, donne-moi une cigarette. Marchons plus vite, il fait froid. » Ils suivirent la rue Nationale jusqu'aux 4 fontaines en silence. La préoccupation d'André était manifeste. Musellaro lui dit « Tu as certainement quelque chose qui te tourmente. » André se sentait le cœur si gros qu'il fut sur le point de se laisser aller aux confidences. Mais il se maîtrisa. Il était encore sous l'impression des méchancetés entendues au cercle, du récit de Jules, de toute cette indiscrétion étourdie qu'il avait provoquée lui-même, qu'il avait professée lui-même. L'absence complète de mystère dans la bonne fortune, la complaisance vaniteuse des amants qui acceptent les plaisanteries et les sourires d'autrui, l'indifférence cynique avec laquelle ceux d'hier vantent les qualités de leur maîtresse à ceux qui sont déjà en voie de la prendre, et l'affectation avec laquelle les premiers donnent aux seconds des conseils pour atteindre plus vite le but, et l'empressement avec lequel les seconds donnent aux premiers les plus minutieux détails sur le rendez-vous obtenu, afin de savoir si la manière dont cette femme vient de se livrer concorde avec celle dont elle s'était livrée d'autres fois, et les cessions, et les concessions, et les successions, bref, toutes les petites et grandes lâchetés qui font cortège aux doux adultères mondains, tout cela lui parut réduire l'amour à une promiscuité insipide et immonde, à une vulgarité ignoble, à une prostitution innommable. Les souvenirs de Skiffanoï lui traversèrent l'esprit comme des parfums vivifiants. L'image de la siennoise resplendissait en lui de clarté si forte qu'il en était presque étonné. Et ce qu'il voyait plus distinctement, plus lumineusement que tout le reste, c'était l'attitude qu'elle avait prise dans le bois de Vicomille en prononçant les brûlantes paroles. Ces paroles, les entendrait-il encore de cette bouche? Qu'avait fait Marie? Qu'avait-elle pensé? Comment avait-elle vécu depuis le jour de la séparation? Son trouble intérieur croissait à chaque pas. Semblables à des fantasmagories mobiles et fuyantes, des fragments de vision lui traversaient l'esprit. Un coin de paysage, un lambeau de mer, un escalier dans les fourrés de roses, l'intérieur d'une chambre, tous les lieux où un sentiment était né, où une douceur s'était épanchée, où elle avait répandu le charme de sa personne. Et il éprouvait un frissonnement profond à penser qu'elle gardait peut-être encore dans son cœur la passion vivante, qu'elle avait peut-être souffert et pleuré, peut-être aussi rêvé et espéré. Qui sait? « Eh bien, dit Jules Musellaro, comment vont tes affaires avec Lady Hatfield ?» Il descendait la rue des Quatre Fontaines et se trouvait devant le palais Barberini. À travers les grilles, entre les colonnes de pierre, le jardin apparaissait plongé dans l'ombre, animé par un faible murmure de jets d'eau, dominé par la masse blanche de l'édifice où le portique seul avait encore de la lumière. « Tu dis ?» demanda André. « Comment vont tes affaires avec Hélène ?» André regarda le palais. Il crut sentir à ce moment dans son cœur une grande indifférence, la mort vraie du désir, le renoncement final. Et pour répondre, il trouva une phrase quelconque. « Je suis ton conseil, je ne rallume pas la cigarette. » Et cependant, pour cette fois, cela en vaudrait peut-être la peine. L'as-tu bien regardée ? Il me semble qu'elle est embellie. Il me semble, comment dirais-je, qu'elle a quelque chose de nouveau. Nouveau ? Non, je m'explique mal. Elle est devenue plus intense sans rien perdre du caractère de sa beauté. Elle est, pourrait-on dire, plus Hélène que l'Hélène d'il y a 2 ou 3 ans. Bref, elle sait quintessence y est. Effet de son second printemps, sans doute, car je crois qu'elle frise de bien près la trentaine. Qu'en penses-tu ? André sentit que ses paroles l'aiguillonnaient et le rallumaient. Pour raviver et exaspérer le désir d'un homme, rien ne vaut l'éloge fait par un autre de la femme qu'il a trop longtemps possédée ou trop longtemps désirée. Il y a des amours agonisants qui se prolongent encore par l'effet de l'envie d'autrui, de l'admiration d'autrui. Car l'amant, dégoûté ou las, redoute de renoncer à ce qu'il possède ou à ce qu'il assiège en faveur d'un rival possible. Qu'en penses-tu? Et puis, faire de cette Hatfield un Ménélas, ce doit être un plaisir extraordinaire. Je le crois aussi, dit André en s'efforçant de prendre le ton frivole de son ami. Nous verrons.